Morning Edition from NPR News.
Let's see him some people house.
France Inter, le 18-20.
Ce soir, nous allons en Turquie, qui diplomatiquement sait se rendre indispensable en jouant les médiateurs entre la Russie et l'Ukraine. C'est en tout cas son souhait, être le faiseur de paix. Pendant ce temps et dans le même temps, Erdogan resserre son étau sur les opposants. On y vient tout de suite. Le bruit du monde est en Italie, sur les plages, qui vont devoir faire le ménage. Figurez-vous, d'ici à la fin de l'année prochaine, appel d'offres obligatoire. Les plages privées, qui sont une majorité dans ce pays, devront être attribuées dans la transparence, et vous verrez que c'est pas gagné. Le bruit du monde, la suite sous les radars. Sébastien Logeni a trouvé le Nigeria toujours traumatisé après l'explosion d'une raffinerie, des cours de déminage au Kosovo pris par des Ukrainiennes et puis la phobie révélée de Donald Trump. Tenez-vous bien pour les jets de tomates, de bananes ou d'ananas. C'est véridique, il en a fait une déposition qui fait 200 pages. 18h50, l'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Et Angélique Boin avec l'impact attendu par l'Europe de la réélection d'Emmanuel Macron. 18h55, le monde d'après de Claude Guibal ou comment le Bitcoin en Centrafrique permet de contourner les sanctions aux Russes. Le monde est vasté, on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabien Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Dorothée Schmitt.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient à l'IFRI. Je le disais, Recep Tayyip Erdogan et Poutine se sont parlé avant-hier. Aujourd'hui, Erdogan a proposé à Poutine de servir de médiateur dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, après un échange de prisonniers d'ailleurs entre Moscou et Washington qui s'est fait sur son territoire. C'est aussi la Turquie qui a hébergé deux rounds de négociations les 10 et 29 mars dernier. Alors, est-ce que cette guerre, cyniquement, est une opportunité inespérée, Dorothée Schmitt, pour Erdogan, qui seront indispensables, y compris aux Occidentaux que nous sommes, une fois de plus?
Oui, alors clairement, la diplomatie turque essaie de jouer cette crise ukrainienne de manière assez cynique comme une opportunité, mais c'est quand même une opportunité qui est très, très compliquée et très risquée à jouer, à la fois parce que la Turquie était très proche de l'Ukraine avant la guerre, avec un partenaire stratégique, parce que la Turquie est membre de l'OTAN, et parce que la Turquie s'affronte à la Russie sur beaucoup d'autres théâtres. Donc en fait, elle a des relations qui sont finalement très intenses avec l'ensemble des protagonistes de cette crise.
Alors, j'allais y venir, parce que quand on regarde le tableau, c'est un peu compliqué. On sait bien effectivement que ces deux pays s'affrontent sur le terrain de la Libye, sur le terrain de la Syrie, où se sont affrontés, mais enfin c'est toujours encore le cas. On n'a pas oublié le Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Turquie dépend du gaz russe et du blé russe, la Turquie a des rapports privilégiés, vous l'avez dit, avec l'Ukraine, elle lui donne des drones, et en même temps, la Turquie n'applique pas les sanctions. On a l'impression d'un espèce de grand écart, en fait. Quelle sorte d'épingle elle essaie de sortir de son jeu, là, la Turquie d'Erdogan?
Alors, voilà, la première chose qui m'a frappée au moment du déclenchement de la crise, c'est que la plupart de nos interlocuteurs disaient la Turquie doit rester neutre à tout prix dans cette crise. Et le point de comparaison, c'était la Seconde Guerre mondiale. Donc la Turquie a intérêt à rester à l'écart d'une querelle qui au départ est perçue comme une querelle entre finalement l'Occident et la Russie. Mais ceci omet l'énorme différence avec la Seconde Guerre mondiale, c'est que la Turquie entre-temps s'est vraiment alignée sur le camp occidental. Elle est quand même candidate à l'adhésion à l'Union européenne. Et les membres de l'OTAN, et c'est un membre de l'OTAN qui est très important aujourd'hui au moment où l'Alliance est en train de redéfinir ses priorités, ses objectifs stratégiques, ses budgets militaires, ses types d'armement. La Turquie, elle est importante à la fois au Moyen-Orient comme relais potentiel après le retrait américain, mais aujourd'hui, ce qu'on voit qui est tout à fait énorme et qui va mettre une très forte pression sur la Turquie, c'est que la mer Noire va devenir un lieu central de contact et d'affrontement potentiel entre la Russie et l'OTAN.
J'allais vous demander d'ailleurs si on a même conseillé à la Turquie de rester neutre, est-ce que c'est pas aussi bêtement, pardon, entre guillemets, pour une question de géographie, parce qu'effectivement, la mer Noire est là. Intelligemment, est-ce qu'on dit comme ça? La Turquie a fermé ses détroits, d'ailleurs, le Bosphore, Dardanelles, pour éviter justement que ça devienne un terrain d'affrontement. Est-ce que ça va se lever à un moment, ça? Est-ce que ça va rester une espèce de zone neutre? Si les Russes étaient rentrés à l'intérieur,
alors,
la guerre aurait une toute autre allure aujourd'hui.
Oui, alors on n'a pas de... Il y a en Turquie une demande de l'opinion publique pour la neutralité. Donc ça, c'est quelque chose dont Tayyip Erdogan doit tenir compte. C'est qu'effectivement, les Turcs, l'opinion turque et son électorat, et l'année prochaine, il fait face à des échéances électorales
très compliquées
parce qu'il a perdu beaucoup en popularité, parce que finalement, les sondages, pour le moment, donnent des intentions de vote qui lui feraient perdre pour la première fois la majorité depuis 20 ans. Donc, il doit tenir compte de ce pacifisme latent de l'opinion turque. Sur la gestion de la mer Noire et les détroits, effectivement, la Turquie, au titre de la Convention de Montreux signée en 1936, décide qui passe ou non les détroits du Bosphore et des Dardanelles.
Et c'est important pour les gens qui nous écoutent, si c'était pas le cas, on peut considérer probablement qu'Odessa aujourd'hui serait tombée, par exemple.
Oui, alors, ce qui est très important, c'est que la Turquie, elle a la décision finale. C'est-à-dire qu'elle peut interdire aux navires de pays belligérants de passer les détroits, de se rendre en mer Noire. Elle a quand même, pendant quelques jours, au début de la crise, c'est-à-dire après l'offensive russe, hésité, alors que Zelensky appelait Erdogan à fermer le Bosphore. Elle a hésité quelques jours en disant qu'elle considérait qu'il n'était pas nécessaire de le faire. Et puis finalement, elle a fermé le détroit du Bosphore. Au début de la guerre, on considérait que finalement, tout ce qui était utile, entre guillemets, comme flotte russe était rentré. Maintenant que le croiseur Moskva a été coulé, on a un besoin russe de renforcer en réalité cette flotte. Et pour le moment, les Turcs résistent. Ils laissent ce détroit fermé. Et évidemment, on peut imaginer, parce que très peu de choses sortent des discussions internes à l'OTAN, qu'on a des discussions extrêmement chaudes sur cette question des détroits. Et ce matin, un de mes interlocuteurs turcs me disait que il pensait qu'on aurait de plus en plus de pression sur la Turquie pour une révision de la Convention de Montreux à l'avenir. Alors, et pour un nouveau système de gestion des détroits. Pour le moment, les détroits, c'est la souveraineté turque. Donc c'est vraiment les Turcs qui décident qui passe ou qui ne passe pas.
Pression.
Les navires de commerce passent, mais pas les navires belligérants.
Pression Dorothée Schmidt, donc dans les deux sens, on a bien compris.
Oui.
Quelle sorte de pression les Russes peuvent-elles exercer? Le donnant-donnant avec les Russes, c'est quoi?
Alors, ce qui est assez intéressant, que j'ai découvert moi-même en préparant les choses cet après-midi, c'est qu'il y a des discussions, par exemple, entre les Turcs et les Russes, parce qu'on a des bateaux turcs qui sont dans des ports en mer Noire, côté russe et ukrainien, et qu'il faudrait rapatrier côté turc. Donc, on est en train de discuter de couloirs de navigation pour rapatrier des navires turcs en Turquie. On a tous les autres terrains sur lesquels les Russes et les Turcs sont finalement en contact, où les Russes peuvent mettre la pression. C'est le cas de la Syrie, où on a une multiplication d'incidents du côté d'Idlib notamment, et où les Russes menacent de fermer le lieu principal de passage d'approvisionnement vers la poche d'Idlib. Donc on a des terrains séparés qui, dans la géopolitique, dans la grande géopolitique russe, sont aujourd'hui en train d'être reliés.
Et en même temps, vous écrivez, Dorothée Schmidt, c'est vous qui l'avez écrit très récemment, que Erdogan est probablement celui qui connaît le mieux la psychologie de Vladimir Poutine. Et en ce moment, Dieu sait que c'est utile, en fait, peut-être, ça, non?
Oui, ça, c'est quelque chose qui que moi, je trouve très important depuis le début, puisque on a, notamment en France, Emmanuel Macron qui se vante de parler à Poutine très régulièrement, effectivement, et qui a eu un rapport qui était un rapport extrêmement coopératif avec le président russe. Ça n'a pas toujours été le cas des Turcs, puisque en 2015, à la suite de les Turcs ont abattu un avion russe qui avait flirté avec leur espace aérien, il y a eu une brouille majeure. Ensuite, ils se sont réconciliés en 2016, on ne sait pas très bien à quelles conditions. Ensuite, l'intervention turque en Libye qui a renversé complètement le jeu, qui a renversé la table en arrêtant l'offensive Maréchal Haftar qui était soutenue par les Russes. Tout ceci sont des irritants en réalité dans la relation russo-turque. Et il est évident que Erdogan, ayant négocié personnellement avec Poutine sur des terrains militaires, sait beaucoup mieux que nous ce dont Poutine est capable.
Dorothée Schmidt, vous le disiez, il y a cette relation privilégiée, il y a le fait qu'on a besoin, nous, de cette relation-là, on a besoin des Turcs à ce moment-là. Est-ce que c'est pour ça que, très tranquillement, Erdogan peut condamner Osman Kavala à la peine capitale? Il le fait parce qu'il est tellement sûr de lui qu'il dit aux Occidentaux « je suis chez moi, je fais ce que je veux ». Est-ce que c'est ça qu'il nous envoie avec cette condamnation pile à ce moment-là?
Erdogan poursuit ses objectifs de politique intérieure en considérant que nous n'avons rien à dire sur ses affaires domestiques, sur ce qui se passe en Turquie même. Il a très bien compris que ce grand jeu géopolitique qui se passait autour de la Turquie et qui inclut la Turquie, qui est un jeu assez dangereux, comme on vient de le dire aussi, avec beaucoup de risques pour la Turquie, c'est un jeu qui en principe permet effectivement finalement de laisser de côté, dans une certaine mesure, la question des droits de l'homme en Turquie. Ce qui n'empêchera pas les Européens de continuer à mettre la pression. Vous savez que les ambassadeurs européens ont assisté à l'ensemble du procès d'Osman Kavala, que les protestations ont été unanimes, mais il semblait assez évident qu'il y avait un symbole, un exemple qui voulait être fait avec Kavala. C'est l'opposant numéro un, c'est un opposant symboliquement extrêmement important pour Tayyip Erdogan. Il était condamné d'avance, pratiquement.
Et alors, pour autant, manifestation, et c'est important de le souligner, mardi à Istanbul, pour dénoncer ce verdict. Anand Loer y était, on se retrouve juste après.
Même Même s'il est en colère, Serdar Erbaş sourit. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas participé à une telle manifestation. Une manifestation en Turquie, où elles sont désormais presque toutes interdites. Une manif près de la place Taksim, près du parc de Gezi, où lui et des milliers de Turcs s'étaient retrouvés jour et nuit en juin et juillet 2013. Serdar est là pour dénoncer le verdict contre Osman Kavala et sept autres figures de la société civile, accusés d'avoir financé, organisé Gezi.
Pourquoi Kavala est-il pris pour cible? Je ne suis pas sûr de le savoir. Personne n'en est sûr et je crois que Kavala lui-même ne le sait pas précisément. Ce qui est sûr, c'est que le pouvoir n'a pas digéré Gezi et qu'il se venge. Il s'est choisi Kavala et sept autres personnes comme bouc émissaire.
Pour ce membre du TIP, parti des travailleurs de Turquie, un verdict aussi lourd ne s'explique que d'une seule façon.
Le pouvoir veut instaurer un climat de peur et ça fonctionne. Les gens ont peur de publier un simple message sur Twitter, un message qui pourrait les mener en prison. Alors manifester, n'en parlons pas. Quelque part, je comprends ceux qui n'osent pas se joindre à nous.
Les élections doivent avoir lieu en juin 2023. À mesure que le vote approche, le débat fait rage au sein de l'opposition entre ceux qui appellent à se mobiliser dans la rue et ceux qui craignent que le pouvoir n'instrumentalise à son profit le moindre mouvement de contestation. Denise, une avocate, s'insurge contre ce raisonnement.
Ce point de vue n'est rien d'autre qu'un appel à la passivité. On sait bien que la seule chose dont les pouvoirs ont peur, ce sont les protestations dans la rue. La démocratie ne se limite pas au vote. Il faut lutter pour récupérer les droits qui nous ont été volés.
Ces appels à la prudence émanent notamment du principal parti d'opposition, le CHP. Kemal, un ouvrier, n'a pas l'intention de l'écouter.
Ce parti qui n'a pas gagné une élection depuis 20 ans nous demande de ne pas descendre dans la rue, d'attendre le jour du vote. Tout ça pourquoi? Pour ne pas effrayer les électeurs de l'AKP qui seraient tentés de passer à l'opposition à cause de la crise économique. Je refuse cette logique, surtout dans une période où les gens ne peuvent plus payer leurs factures, où les jeunes comme moi rêvent de fuir à l'étranger.
Umut, c'est un étudiant en histoire qui avait à peine 14 ans au moment de Gezi et dit s'être politisé grâce à cette protestation, pense que l'opposition doit se mobiliser maintenant et partout.
On est totalement conscient du fait que l'AKP ne va pas nous livrer la victoire sur un plateau. Donc ce n'est pas dans l'isoloir, mais en s'organisant dans la rue, sur les places, sur les campus, dans les classes, qu'on lui arrachera des mains le pouvoir.
Et ce, d'autant que l'opposition s'attend à ce que le président Recep Tayyip Erdogan resserre encore l'étau dans les mois à venir.
Merci à Anne Handler pour le reportage. Dorothée Schmidt, on a bien entendu à la fois instaurer un climat de peur, mais aussi est-ce qu'on se dit que Erdogan a peur, en fait, parce qu'il se sait fragile avant juin 2023 et qu'il est obligé de frapper ce genre de coup. On sent bien l'ambivalence de l'opposition en ce moment, y compris des manifestants qu'on vient d'entendre.
Alors, je suis pas sûre qu'Erdogan ait vraiment peur. Il y a un vrai mécontentement en Turquie qui est lié notamment à la situation économique qui est effectivement catastrophique, avec une inflation qui dépasse officiellement les 50%, mais officieusement les 120% en glissement annuel. Donc là, une petite classe moyenne turque qui s'appauvrit, donc l'électorat de Tayyip Erdogan qui est grignoté. La question évidemment des libertés publiques qui commence à agacer beaucoup de monde. Ce qui est très important, c'est que ces manifestations dans la rue, c'est quelque chose qui n'est pas normal en réalité en Turquie. C'est-à-dire qu'on se rappelle des grandes manifestations de Gezi qui avaient été réprimées. Kavala a été jugé en partie pour avoir organisé prétendument les manifestations de Gezi.
Et en effet, Gezi ne passe pas.
Et effectivement, au moment des manifestations de Gezi, il y avait des grandes discussions intergénérationnelles en Turquie entre les parents qui avaient vécu les différents coups d'État, la répression, et qui n'osaient pas aller dans la rue. Et à l'époque, on disait que seuls les Kurdes allaient dans la rue. Donc aujourd'hui, si on a à nouveau cette culture de la protestation dans la rue qui se répand, ça veut vraiment dire qu'effectivement, c'est de plus en plus difficile de tenir la Turquie. Je tiens quand même à dire que on a aujourd'hui l'opposition qui relève la tête en Turquie. On a effectivement une sorte de front anti-Erdogan
qui se coalise, quand même, tout sauf Erdogan.
Dessine, tout sauf Erdogan et les nationalistes. Simplement, la grande inconnue, la grande le point aveugle de tout ça, c'est quand même la question kurde. Et les Turcs ont encore lancé une grande opération anti-PKK au Kurdistan irakien. Donc encore une fois, les questions internationales et les questions domestiques sont vraiment reliées de manière extrêmement anxiogène finalement en Turquie aujourd'hui.
Est-ce que la guerre en Ukraine joue son rôle aussi? Le rôle de la Turquie joue son rôle aussi? Vous disiez tout à l'heure que la population d'une manière générale était plutôt favorable à cette neutralité. Est-ce que ça joue vraiment dans le sens d'Erdogan, ça? Est-ce que ça calme les oppositions, ce nouveau rôle de la Turquie?
Oui, en tout cas, il compte là-dessus et il compte aussi sur le fait qu'il pourra avoir un rôle important à jouer après la guerre. C'est-à-dire que Erdogan a intérêt à ce qu'il y ait, des affrontements très intenses, mais qui s'arrêtent assez rapidement. C'est pour ça qu'en ce moment, il fait montre d'un certain affolement en appelant lui-même Poutine, en disant à nouveau qu'il est prêt à organiser des pourparlers. Parce que finalement, l'intérêt de la Turquie, c'est ensuite de participer à la reconstruction de l'Ukraine et de trouver des arrangements avec la Russie, notamment sur la question de la mer Noire, qui ne l'engage pas trop dans le camp occidental anti-russe.
Et mais est-ce que ça veut dire que nous, par exemple, nous aussi, on est obligé de mettre de l'eau dans son vin, et dans notre vin, et même nous, la France, d'ailleurs, très concrètement, après l'épisode de la Grèce, on a bien vu jusqu'à quel point on était à couteau tiré. Est-ce que tout ça s'est terriblement calmé? Parce qu'il y a effectivement les relations avec les Russes, avec la Turquie, mais il y a celle avec les Émirats, celle avec l'Arabie Saoudite. Enfin, on sent bien qu'il y a une volonté de la part d'Erdogan de jouer cette carte diplomatique bien au-delà de ce qui se passe en ce moment en Ukraine.
Oui, la Turquie, elle joue aussi une sorte de non-alignement, ce qui fait quand même beaucoup de jeux à la fois. C'est-à-dire qu'elle est aussi du côté effectivement des pays arabes du Golfe qui évitent soigneusement de prendre parti. Elle est intéressée évidemment par la réorganisation des chaînes de valeur avec l'Asie en espérant qu'elle va avoir un rôle économique différent à l'avenir. Donc on a des ambivalences qui s'accumulent, qui seront très compliquées à tenir effectivement sur le plus long terme pour la Turquie.
Et on verra comment ça tourne. Vous serez invité à revenir nous en parler, Dorothée Schmidt, et ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci vraiment de votre passage dans la journée.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès, sur France Inter.
La suite ce soir, ça se passe sur les plages italiennes, figurez-vous, qui vont devoir très vite mettre de la transparence dans les concessions. En face des hôtels, en face des restaurants, un vrai chantier que va nous raconter Bruce de Galzin. Et pour aller jusqu'à 19h sous les radars, Sébastien Legénie.
Une catastrophe nationale secoue le Nigeria, 100 morts dans l'explosion d'une raffinerie illégale, la dernière d'une longue série.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est vous Angélique Boin. Bonsoir Angélique.
Bonsoir, on revient sur la réélection d'Emmanuel Macron. Quelles sont les attentes de ses partenaires? Quel est l'impact pour l'Europe? On pourrait en avoir une idée le 9 mai prochain, Fabienne.
Eh bien, on verra ça ensemble. Le monde d'après, c'est vous, Claude Guibal. Bonsoir, Claude.
Bonsoir, Fabienne. Ce soir, on va en Centrafrique, qui est devenu hier le premier pays d'Afrique à adopter le bitcoin comme monnaie officielle. Et vous allez voir, en fait, c'est un bras d'honneur monétaire. Je vous expliquerai ça.
Allez, à tout de suite, tout le monde. Le tour de la planète continue. Il passe par l'île de Wight et un nouveau titre de Wet Leg, Your Mom, sur France Inter et dans Un Jour dans le Monde. Goodbye. Le bruit du monde ce soir est à la plage en Italie. Si vous avez l'habitude d'aller vous baigner chez nos voisins qui ont quand même 8000 km de côte, ça laisse de quoi faire. Vous savez que ce sont les rois de la plage privée et que tous les hôteliers ou restaurateurs en bord de plage font un peu ce qu'ils veulent avec leurs transats et leurs cabines. Les bouts de plage sont des chasses gardées, parfois aussi des petits arrangements pas très légaux. Ça fait 15 ans que l'Europe demande à l'Italie de la transparence et un appel d'offres en bonne et due forme pour chaque parcelle de plage exploitée. À la fin de l'année prochaine, ça deviendra obligatoire. Et croyez-moi, c'est la révolution. Le reste, c'est Brice de Galzin qui raconte.
Sur la plage de Rome à Ostie, une tractopelle creuse dans le sable et tente de le repousser pour agrandir la plage. Au grand dam d'Agostino Biondo, il milite dans l'association Mare Libero. Selon lui, les gestionnaires d'établissements balnéaires font absolument ce qu'ils veulent.
Cet établissement a une concession de 4000 m2, mais pendant la saison, il occupe environ 12000 m2 de plage. En plus, avec du sable payé par l'argent public pour lutter contre l'érosion. Et bien sûr, il ne paye pas un loyer pour 12000 m2 alors qu'il les occupe sous les yeux de tous et sans que personne ne dise rien. Le pire, c'est qu'à cet endroit, en plein centre, on pourrait avoir une grande plage libre pour tout le monde.
Una grande spiaggia libera aperta a tutti i cittadini.
Et en plein centre, à Ostie, il y a près de 4 km de murs où se succèdent les établissements balnéaires sans possibilité d'accéder librement à la plage. Dans la cuisine du bel sito, le chef prépare des lasagnes. Ici, il y a un restaurant intérieur et extérieur, des centaines de transats à louer. Tout est payant, mais Eduardo Moscara estime que le loyer qu'il paie à l'État est bien suffisant comparé à d'autres.
Ceux qui paient moins de 5000 euros par an n'ont pas de structure en dur. Sur 30 000 établissements en Italie, c'est vrai que beaucoup ne paient que cela. Et moi, je peux vous le montrer. Je paye 45 000 euros de loyer, plus les impôts 19 000 et les déchets 34 000.
Edouard nous montre ses cabines. Il en a 200 et les loue 2800 euros par an, soit plus de 500 000 euros. Ce qui le préoccupe, c'est de ne pas savoir quelles règles le gouvernement décidera pour les appels d'offres désormais obligatoires. Eduardo travaille en famille et a investi dans son établissement qu'il ne veut pas perdre.
Nous sommes deux associés, mon ami et moi, avec chacun deux enfants et ma femme. Mes deux fils n'ont jamais pris de vacances l'été. Quand ils ont eu leur bac, ils n'ont pas continué les études car ils voulaient travailler ici. J'ai donc investi pour ma famille. Et le gouvernement veut me le retirer et lancer un appel d'offres. Mais ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, ça a de la valeur. Ça va être reconnu, il semble que non. C'est de la folie.
Mais les amendements se multiplient et certains parlementaires cherchent à modifier les critères pour avantager les sortants.
Bonjour, je suis Marco Possanzini, consigliere municipale di Sinistra Civica Ecologista. Prego, si accomodi.
Marco Possanzini nous accueille à la municipalité de Rome-Ostie, très satisfait de la décision qui vient d'être prise. Les appels d'offres seront organisés par la ville de Rome et non pas le quartier d'Ostie, 240 000 habitants tout de même, mais où certains font la loi.
C'est capital que cela soit géré dans un endroit neutre, une espèce de zone franche, parce qu'ici la mafia est présente. Elle a infesté les établissements balnéaires notamment et de nombreux intérêts économiques. Elle est profondément enracinée et elle est très influente grâce à la corruption. Quand elle n'y arrive pas, elle a d'autres moyens de coercition. Et vous savez à quoi je me réfère, bien sûr.
À Ostie, la mafia a fait du trafic de drogue, du trafic d'êtres humains, et la mafia a tué. Une série, Subura, s'en est même inspirée.
Rome ne peut pas être gouvernée.
Mais sans aller si loin, direction Terracina, entre Rome et Naples, une station balnéaire de 48 000 habitants, où Gabriele Subiaco s'inquiète de la mauvaise gestion des biens publics et de potentiels conflits d'intérêts. Il est porte-parole du parti Europa Verde.
L'année dernière, par exemple, on a appris qu'un ancien conseiller municipal chargé des biens de l'État, donc des concessions des plages, était aussi propriétaire avec sa famille d'un établissement balnéaire. Il est donc évident qu'il y a des conflits d'intérêts dans cette ville.
Mais ce n'est pas inhérent à cette commune dirigée par Fratelli d'Italia, le parti post-fasciste réputé proche du syndicat des établissements balnéaires. D'autres conflits d'intérêts impliquent le parti de Silvio Berlusconi ou le parti démocrate. Mais ici, à Terracina, l'association Lega Ambiente, la Ligue italienne pour l'environnement, cherche aussi à se faire entendre. Elle veut influencer les parlementaires qui mettent au point la future loi pour les concessions balnéaires. Anna Gianetti est la présidente du cercle Legambiente de Terracina.
Nous, à Legambiente, nous voulons des critères transparents, et que soient avantagées les coopératives de jeunes, les familles, toutes les activités honnêtes et respectueuses du territoire. C'est cela qui doit être mis en avant par rapport à d'autres types d'investissements, comme notamment les investissements étrangers.
La Ligue de l'Environnement espère aussi qu'à Terracina, la loi permettra de faire respecter et même d'augmenter le nombre de plages libres, des plages qui ne soient pas toujours reléguées dans des endroits inaccessibles et jamais entretenus.
Bruce de Galzin, à la plage en Italie. Merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Sébastien Nogeni, le retour. Nous sommes au Nigeria, Sébastien, traumatisé depuis la semaine dernière par l'explosion d'une raffinerie illégale.
Une catastrophe nationale, selon le président nigérian. C'était vendredi dernier dans la région pétrolifère du delta du Niger. L'explosion a fait 110 morts, brûlés vifs. La moitié des corps n'est pas identifiable, enterrés dans des fosses communes. La plupart des victimes sont des jeunes gens vivant dans une extrême pauvreté. Cet habitant raconte que le taux de chômage est ici trop élevé. Dans cette zone, nous sommes tout simplement négligés, abandonnés. Les entreprises du coin ne prennent pas leurs responsabilités. Il n'y a aucun bénéfice pour les communautés locales. Les conditions de vie sont si mauvaises. La vie est tellement dure à vivre ici que les femmes, les enfants, les jeunes recourent à tous les moyens pour survivre. Ces explosions, c'est un fléau qui ravage le pays depuis des décennies. La pire explosion du genre s'est produite en octobre 98 dans le sud du pays, faisant plus de 1000 morts. Le Nigeria est le premier producteur de pétrole africain. Ça représente 90% de ces exportations, une immense richesse détenue par les grandes compagnies pétrolières étrangères comme le britannique Shell et dont la plupart des habitants sont exclus. Résultat, se développent des réseaux de groupes armés et d'habitants pour piller, siphonner le brut des pipelines qu'ils raffinent ensuite sur des sites illégaux et revendent au marché noir. L'armée effectue parfois quelques opérations coup de poing, mais en vain, des centaines de raffineries illégales continuent d'être exploitées dans les marécages du Nigeria.
Au Kosovo, des femmes ukrainiennes se forment au déminage.
Elles sont loin de leur pays envahi par les soldats russes, mais c'est leur façon de participer à l'effort de guerre, des cours intensifs de déminage, un cursus de 3 semaines pendant lequel elles apprennent à manipuler les détecteurs, à identifier les mines et les techniques de désamorçage. Cette Ukrainienne enseignante d'anglais explique qu'il y a une demande énorme de démineurs dans son pays. Les gens doivent être formés le plus rapidement possible, retourner sur place et travailler. C'est nécessaire en ce moment, dit-elle, parce que nous subissons de terribles conséquences pour l'industrie et donc la terre est cruciale maintenant. Il y a des gens qui veulent y vivre, y travailler. On manque de temps, il faut travailler. Le Kosovo, soutien de l'Ukraine, est un pays qui lui-même continue de déminer son propre territoire après la guerre des années 90 avec les forces serbes. Selon les spécialistes, des décennies seront sans doute nécessaires pour neutraliser les milliers d'engins explosifs russes encore actifs, déversés sur près de la moitié du territoire de l'Ukraine. On démine toujours au Laos, au Cambodge, au Vietnam, 50 ans, 60 ans après.
Et puis on termine, Sébastien, avec de nouvelles révélations sur les angoisses intimes de Donald Trump.
Oui, notamment l'angoisse d'être tué par des jets de tomates ou d'ananas. On ne rigole pas, je vous explique, il faut remonter à sa campagne aux primaires de 2016 avant qu'il ne devienne président. Là, lors d'un rassemblement de Mexicains devant la Trump Tower à Manhattan, les gardes du corps de Donald Trump s'en prennent violemment aux manifestants qui ensuite ont décidé de porter plainte. Et c'est dans le cadre de cette plainte que l'ancien chef de la Maison Blanche a été auditionné sous serment devant la Cour suprême de l'État de New York en octobre dernier. Une journaliste de la MSNBC fait la lecture à la télévision de sa déposition.
Ready? Here we go. Question. Mr. President,
Monsieur le Président, est-ce que vous avez bien dit à vos gardes du corps, si vous voyez quelqu'un prêt à lancer une tomate, cassez-lui la gueule. Ah oui, tout à fait, répond Trump. C'est très dangereux. Et là, l'ancien président d'expliquer doctement qu'il était clairement sous la menace d'un lancer de fruits. C'est très violent, vous savez. Nous étions en état d'alerte. Il fallait éviter que ces gens nous jettent des tomates, des ananas, des bananes, des choses comme ça. Oui, ça peut être dangereux. Vous pouvez être tué par ces choses. Voilà, l'audition fait 200 pages, un florilège qui en dit plus que n'importe quel autre document officiel sur l'état psychologique du 45e président américain.
Voilà, 5 fruits, 5 légumes aussi, c'est important d'en avoir toujours sur soi pour les balancer. Merci beaucoup Sébastien Nogeni. Je vous laisse partir avec les Alessi Brothers, Olori. Ils sont jumeaux, figurez-vous, la chanson s'appelle Olori. Donc allez-y les frangins. Non ? Vous l'avez ? Allez-y, allez-y. Ok, merci Sébastien. Au revoir.
Ah, merci, au revoir.
All summer and after fall I'll keep you warm.
Alessi Brothers sur France Inter. Oh, Laurie, Angélique Bouin nous attend à Bruxelles.
France Inter.
Je suis venu vous parler de
l'European Union.
Général.
Bonjour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, Angélique, il ne nous a pas échappé que le président Macron II est donc encore président de l'Union et toujours, aux yeux de certains, l'un des piliers de l'Europe. Alors, question, quelles sont les attentes de ses partenaires maintenant qu'il est réélu? Quel impact sur l'Europe?
Eh bien, Fabienne, il semble encore un peu tôt pour le dire. Au lendemain de sa réélection, on en parlait chez vous, l'heure était à Bruxelles au soulagement. Mais une fois les coupes de campagne, de champagne, pardon, rangées, eh bien, il y a quelques préoccupation ici à Bruxelles. D'abord, que fera-t-il des 13 millions de voix qui se sont portées sur Marine Le Pen et son projet de Frexit caché, avec en corollaire les inquiétudes très fortes partagées par de très nombreuses capitales sur le pouvoir d'achat. Emmanuel Macron aura-t-il ensuite les coudées franches pour gouverner après les législatives et confirmer son leadership à l'échelle européenne? C'est une question qui se pose ici. Et puis, depuis que la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a ouvert les portes de l'Union à l'Ukraine, mais aussi à la Géorgie, à la Moldavie, que le chancelier allemand s'est prononcé, lui, sur une accélération de l'adhésion des pays des Balkans, eh bien, il y a aussi cette interrogation brûlante à Bruxelles. Comment la France va-t-elle aborder ce débat sur l'élargissement? Question, on le sait, très sensible chez nous dans le débat politique.
Et alors, on devrait en savoir plus, Angélique, lundi prochain, le 9 mai, à Strasbourg, où Emmanuel Macron doit prononcer un grand discours.
Oui, à l'occasion de la Journée de l'Europe, qui célèbre la paix et l'unité sur le continent. Ce jour-là, le président français et la présidente de la Commission vont conclure les travaux de la conférence sur l'avenir de l'Union européenne, cette vaste consultation citoyenne sur laquelle ont promis de s'appuyer les dirigeants de l'Union pour la réformer. Il se murmure que ce sera en quelque sorte l'acte 2 de sa vision pour l'Europe, après le fameux discours de la Sorbonne. Emmanuel Macron est donc très attendu par ses partenaires, et en particulier sur ce dossier de l'élargissement. Pourquoi? Parce que le 9 mai, eh bien, c'est pas seulement la fête de l'Europe.
Et oui, c'est aussi une date essentielle pour Moscou, Angélique.
Oui, c'est aussi la fête nationale russe qui commémore la capitulation allemande de 1945. Et Vladimir Poutine veut déclarer ce jour-là sa victoire en Ukraine. On s'attend à un très grand show nationaliste. Thierry Chopin est professeur de sciences politiques à Lille et expert auprès de l'Institut de l'Or. Il estime, on va l'écouter, que ce sera donc un discours très important.
Il s'agira, et peut-être que la France a un rôle important à jouer à cet égard, de souligner le contraste, je dirais, entre les deux 9 mai, qui incarneront évidemment deux systèmes de valeurs, deux modèles de régime politique, deux modèles de société, deux approches opposées des relations internationales et de la force. Les Européens devront affirmer la force de leur unité et de leur solidarité vis-à-vis de l'Ukraine et exprimer leur identité commune face à la prétention poutinienne de revendiquer la victoire. Et donc là, je crois que l'enjeu est extrêmement fort face à la Russie de Vladimir Poutine.
Et pour Thierry Chopin, bien la question de l'élargissement de l'Ukraine et de la dizaine de pays qui frappent à la porte de l'Union est majeure. La France pourrait en fait proposer un nouveau modèle d'adhésion.
Et les idées en ce moment fourmillent sur le sujet, Angélique.
Oui, dans une interview au journal Les Échos, Enrico Letta dit comprendre les craintes d'un élargissement trop rapide, mais il n'imagine pas laisser les Ukrainiens attendre 2036 pour adhérer. L'ancien président du Conseil italien plaide donc pour conserver une Europe plus resserrée auprès des États qui sont très engagés dans l'intégration et pour créer à côté une confédération élargie à 36 pays avec des coopérations renforcées dans des domaines bien précis comme la sécurité, la santé, l'énergie. Il faut le faire maintenant, dit-il, en direction de Paris, hein, sous présidence française, ça laisse peu de temps, pour envoyer un signal fort à l'Ukraine et ses voisins qui commencent, selon lui, à considérer les États-Unis comme leur véritable allié et l'Europe comme trop timide, je le cite, et radine. Autre idée assez proche, celle de l'eurodéputé français macroniste Bernard Guetta, qui lui aussi plaide pour une Europe à plusieurs vitesses. Il faut cesser de penser que nous pourrons avancer tous du même pas, tout le temps et dans tous les domaines, écrit-il dans une tribune au journal Le Monde, comme on le fait avec l'euro ou Schengen. Il veut multiplier les coopérations renforcées, créer à terme une Europe à trois étages, de l'union la plus lâche à la plus étroite, hein, sans exclure que l'étage le plus resserré n'intègre plus l'intégralité de l'actuelle famille des 27. Ça bouillonne, Fabienne, sur ce sujet à Bruxelles et l'on en reparlera le 9 mai.
Très certainement, Angélique Boin avec nous depuis Bruxelles. Merci beaucoup.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Claude Guibal. Claude, on regarde la Centrafrique ce soir, qui a fait un pas vers le futur en devenant hier le premier pays d'Afrique à adopter le bitcoin comme monnaie officielle.
Oui, et du coup, Fabienne, je me demandais, vous boursicotez ?
Pas du tout.
Bon, donc si le bitcoin, vous maîtrisez un peu ?
Je ne sais pas compter.
Alors, je vais vous rappeler les bases. Le bitcoin, c'est en fait une monnaie virtuelle qui ne dépend d'aucun état, d'aucune institution financière, et sa valeur, en fait, elle est déterminée par la loi de l'offre et de la demande. En fait, c'est la plus célèbre des crypto-monnaies qui sont aujourd'hui devenues si importantes pour les pays émergents, des pays aux économies fragiles où la majorité de la population n'a en fait même pas de compte bancaire. Et alors, un des avantages de ces monnaies virtuelles, c'est que ça permet notamment de faire très facilement des transferts d'argent vers l'étranger qui sinon sont très compliqués, très réglementés, très chers. Et quand on a une forte diaspora avec des émigrés qui envoient de l'argent au pays, eh bien le bitcoin, c'est idéal. Mmh. Et c'est comme ça que le Salvador a justifié sa bascule officielle vers le bitcoin l'an dernier en disant que ça allait permettre à sa population d'économiser 400 millions de dollars de frais bancaires lors de ces transferts internationaux.
Et donc, voilà la Centrafrique donc, qui passe le pas à son tour.
Oui, tout à fait. Or, la Centrafrique, vous savez, bon, c'est un des pays les moins développés, les plus pauvres au monde, mais en faisant du bitcoin sa monnaie légale, la Centrafrique vient de faire un choix politique qui va avoir des répercussions énormes. Car cette monnaie virtuelle, en fait, elle vient, se poser en alternative à la monnaie qui existe actuellement, le franc CFA, ce fameux franc CFA détesté par toutes les populations des anciennes colonies françaises qu'il utilise en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Ça fait quand même 14 pays en tout. Et pour elle, le CFA, dont la parité est indexée sur l'euro, c'est vu comme une atteinte à la souveraineté des États africains, un peu comme une façon déguisée pour la France de garder la main sur les économies de ses anciennes colonies au prétexte de les soutenir. Alors, en adoptant le bitcoin, la Centrafrique devient le premier État à se distancier officiellement, si vous voulez, de ce parapluie monétaire français, alors que le rejet de la France n'a jamais été aussi grand au Sahel, au Mali, parlons-en, ce qu'on pourrait appeler un bras d'honneur monétaire, il va faire très mal et il risque de faire des émules.
Et c'est pas un hasard, Claude, si ça se passe en Centrafrique et pas ailleurs.
Oui, parce que la Centrafrique, et on l'a beaucoup dit ici, c'est par là que la Russie a commencé sa conquête de l'Afrique. Les Russes y ont profité du recul français pour se poser en alternative, en proposant leur service à l'État centrafricain, d'en devenir aujourd'hui un des acteurs majeurs. Ce sont eux qui forment l'armée centrafricaine, qui livrent des armes aux autorités, eux qui sont même chargés de la protection directe du président, Touadéra. Et à travers le pays, ce sont des sociétés privées russes, et notamment les fameux miliciens de Wagner, qui sont chargés de reconquérir l'autorité sur les zones contrôlées par les groupes armés. Ces milices russes sont notamment chargées de protéger l'accès des mines d'or, d'uranium et de diamants. Et cette protection, elle se fait en échange justement de licences d'exploitation de ces mines. Le truc, c'est que l'exploitation de ces mines dans les zones contrôlées par les groupes armés, elle est officiellement soumise à un embargo international. Et ça fait des années que la Russie réclame auprès de l'ONU la levée de cet embargo en vain.
Mais alors, c'est quoi le rapport avec l'adoption du Bitcoin ?
Eh ben, si vous avez suivi le Bitcoin, tout à l'heure, je vous ai dit que ça ne dépendait d'aucune autorité. C'est une monnaie qui est vraiment anonyme, intraçable. Il n'y a pas de moyen de vérifier l'origine des fonds, des fraudes. En fait, le Bitcoin, c'est notamment une voie royale pour le blanchiment d'argent. C'est un système idéal pour vendre, ni vu ni connu, des marchandises clandestines. Et la Centrafrique est affaillie, mais au sous-sol, si riche en matières précieuses, en regorge. Et dans le contexte de la guerre en Ukraine, avec les sanctions que la Russie cherche à contourner, les spécialistes du coup sont en alerte. Moscou, disent-ils, n'est peut-être pas totalement étrangère à la décision de la Centrafrique d'adopter le Bitcoin, l'argent. Fabienne, l'éternel nerf de la guerre.
Claude Guibal pour Le Monde d'après. Merci beaucoup. Le 18-20, la suite, c'est le journal de Claire Chaudière. Et puis, il y a le téléphone sonne juste après. Merci de passer la soirée avec nous. À tout de suite.